plus grand respect pour l'érudition de ces historiens de la pensée juive, mais quand même, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre un historien de la pensée juive et un penseur juif. Et je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Il y a une différence, par exemple, entre un professeur de philosophie et un philosophe. Un professeur de philosophie n'est pas forcément philosophe. J'étais professeur de philosophie, si ça me permet de prendre cet exemple. Un professeur de philosophie n'est pas forcément philosophe. Vous comprenez ? Un professeur d'histoire n'est pas forcément historien. Et on peut très bien ne pas du tout comprendre le sujet dont on est historien. Et c'est souvent le cas. Écoutez, la question est légitime, mais à l'intérieur, je vous donne un exemple. J'ai souvent eu à mettre en relation le monde des philosophes et le monde des prophètes. Ce que disent les philosophes et ce que disent les prophètes. En croque remarque, une m'est apparue très rapidement, dès le début de mes études, et ça s'est confirmé depuis des années et des années. C'est que il y a une dialectique de contradiction des philosophes entre eux. Ils font allusion à un ensemble de problèmes, ils se parlent à travers l'espace et le temps, les grands philosophes, à un ensemble de thèmes et de problèmes qu'ils comprennent, et ils nous invitent, c'est très gentil de leur part, ils nous invitent dans leur laboratoire, ils nous invitent dans leur intimité de philosophes se parlant l'un à l'autre. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que chaque système de philosophie est une vision du monde cohérente pour elle-même et exclusive de la vision de l'autre philosophe. Si, à moins de tomber dans un syncrétisme qui n'a aucun sens, qui n'a aucun tarame, qui n'a aucun goût, on ne peut pas employer le mot de « idée », par exemple, qui est un des mots importants de la philosophie, des problèmes philosophiques, avec « idée » chez Hegel, c'est pas « idée » chez Platon, c'est pas « idée » chez Kant, c'est pas « idée » chez Descartes, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ? Chaque philosophe a une grammaire de la pensée totale, cohérente, géniale pour elle-même. Et à la limite, pour être vraiment cartésien, il faut être Descartes. Et surtout n'entrer aucune équation personnelle d'élève dans Descartes, parce que c'est un faux Descartes, déjà. Vous comprenez ce que je dis ? Eh bien, Hegel l'a bien mis en évidence lui-même, dans son propre système, il y a une sorte de dialectique de contradiction, d'opposition, de différence des systèmes philosophiques entre eux. Alors que dans le monde des prophètes, c'est tout le contraire. Tous les prophètes disent la même chose. Mais chacun a son style, mais ils disent tous la même chose. Et l'enrichissement de l'équation personnelle, c'est de dire la même chose, mais dans le chidouche de l'amour de chacun. Et j'insiste, parce que là aussi, il y a un poncif, un cliché, je ne sais pas, il y a un autre mot en français, mais j'ai oublié. Oui, que la philosophie, c'est le monde de la pensée objective, alors que la Bible, c'est le monde de la pensée subjective. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Le système philosophique est la subjectivité pure d'une équation personnelle géniale de chacun, alors que le monde de la vérité parlé dans le discours public, lui, est objectif, parce qu'il concerne une histoire de la réalité, et non pas des idées, des opinions, des jugements, des idées. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous ? Alors, il est bien évident que je ne peux vous parler comme ça que parce que j'ai appris le langage universitaire, mais dit de cette manière, ça ferait bondir les universitaires. Mais il faut bien savoir que le Maïmonide qu'on risque de nous présenter comme cela, c'est évidemment un faux Maïmonide. Voilà, est-ce que c'est suffisamment clair? Cette idée qu'un gosse de Talmud Torah qui a fréquenté Maïmonide sourirait s'il entend cela, que Maïmonide avait des réserves sur le Midrash. Ça n'a pas de sens. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans les catastrophes, hein, dans les tacades. Tu as une question.
Quelle est l'origine de. Quelle est la source de cette explication de la définition de soin à la vie que tu nous as donnée ?
Je ne comprends pas ta question. Je n'ai pas besoin d'explication. J'ai cité soin à la vie. Simplement en faisant une remarque, hein, que dès qu'on prend connaissance de son marot, la Talmud, de son introduction à Talmud, on voit à qui il parle. Il parle à des élèves qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est Tiuta, Kushia, Tosefta. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors il leur dit, vous allez étudier sans maître, il faut bien étudier, tu n'as pas de maître, et tu dis, quand même, attention, la halakha, tu dois admettre et t'en servir. Pourquoi? parce que la halakha élabore la règle pour la communauté, pour la collectivité. Par conséquent, même si tu ne comprends pas, tu dois te plier à la halakha. Et puis, c'est pas tellement difficile de comprendre la halakha pour elle-même, c'est-à-dire de comprendre les catégories législatives de la conduite. Ce qui est difficile, c'est de comprendre le sens des choses, le sens des unités de sagesse qu'il y a dans le Midrash. Ça, c'est difficile, parce que là, l'intelligence est indispensable, mais elle ne peut pas, elle ne sert à rien si elle est seule, parce que le Midrash, c'est pas l'intelligence qui comprend, c'est l'âme qui comprend à travers l'intelligence. Vous comprenez? Et la relation du maître au disciple, une relation d'âme à âme, et non pas d'intelligence à intelligence. Je n'ai pas besoin d'un maître pour me donner ce que je peux avoir avec un fichier de bibliothèque. Le maître n'est pas là pour me donner des renseignements d'érudition. Ça, n'importe quel gosse de ta doctorat connaît son érudition par cœur. Il n'a pas besoin d'un maître pour ça. Il a besoin d'un maître pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire et non pas apprendre ce qu'il y a à apprendre. Est-ce que c'est fait? Ça, c'est le répétiteur. Ça, c'est le vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est pas l'intelligence qui explique, c'est l'âme qui parle. Vous comprenez? Alors que Mananagui te dit, attention, tu n'as pas de maître, touche pas au Midrash. Voilà. Sauf ce qui te paraît que tu as compris, ça tu peux citer, t'en servir, mais le reste, touche pas. Si tu ne comprends pas, à manière des précautions. C'est la lecture cachère de ce Mananagui. Il n'y a pas d'autre lecture possible. Voilà. Parce que n'oubliez pas que on nous met dans des invraisemblances absolues. Shmuel HaNagid est un homme pieux, c'est un grand d'Israël, c'est un grand du Talmud. Il va se permettre une impertinence pareille. Quand Rabbi Akiva dit une parole de Halakha, ça c'est Kacher du Sinaï, et quand il dit une Agada, je t'en prie, c'est ce qu'il a pensé avant le petit déjeuner ce jour-là, à la nuit. Vous comprenez? C'est scandaleux de mettre ça dans le crâne des enfants d'Israël. C'est maman, je prends les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Qu'est-ce que c'est? Plus fort. Je veux dire, toute la demande. Voilà. La consigne, le conseil de Shmuel HaNagid paraît difficile à appliquer, puisque à chaque phrase dans la Gemara, il y a des midrashim. C'est ça que tu veux dire. Oui, bien sûr. Mais écoutez, il faut retrouver les choses élémentaires. C'est une légende de croire qu'on peut étudier le Talmud avec des livres et des dictionnaires. On ne peut pas étudier le Talmud sans maître, parce que sinon on se contredit soi-même. Parce qu'on commence par lire le Talmud, ça c'est la tradition qui nous vient de maître à élève depuis mon cher Rabbeinu. Mais moi, je n'ai pas besoin de maître, moi avec mes dictionnaires et mon intelligence, je m'en sors. C'est des tartés de sacré. Stira, comment il veut dire Stira? On se donne une vie. C'est une contradiction intérieure. Tu démens ce que tu dis en le disant. Vous voyez le problème? Alors il y a cette espèce de légende qui a atteint le monde juif. Parce qu'il y a une espèce de la vanité d'intelligence juive. Eh bien, le Talmud, ben oui, je prends mon Talmud, je prends mon dictionnaire, mon glossaire, là, mon index, mon mabot, la Talmud, et puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud. Et tu parles, tu continues à parler d'une tradition. Et tu ne te rends pas compte que tu nies ce que tu dis en le disant. Est-ce que c'est clair? Bon, alors je vais vous dire une chose. Il y a dans Maseret Ketuvot, ça j'avais cité une fois. Maseret Ketuvot, c'est la page 111A vers le bas de la page. C'est, ne vous affolez pas, j'ai vu ça il y a à peine une dizaine d'années. Non, je plaisante. Voilà ce que dit la Maseret Ketuvot. 111A, dernier tiers de la page. Ouais. Il y a Enodomé, Halomé, Beno et Benatmo. Ça veut dire, ça ne ressemble pas. Ne ressemble pas. Celui qui apprend de lui à lui-même, par lui-même, à l'omède beno le benasmo, ni à l'omède merabo, de celui qui apprend de son maître. Je vais vous donner un exemple de pilpoul sur cette formule. Enfin, de pilpoul, pas pilpoulistique dans le sens négatif. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant qu'il y a une différence entre celui qui étudie tout seul et celui qui étudie de son maître? Il veut dire que ça ne ressemble pas. Alors, il veut dire que ça ne fait que ressembler. Pourquoi dit-il que ça ne ressemble pas? Dafka, ça ne fait que ressembler. Qu'est-ce que c'est ressembler? C'est être comme, mais pas la même chose. C'est ça qu'il veut dire. Alors, ne dit pas ça ne ressemble pas, dit ça ressemble. En hébreu, c'est plus clair. C'est clair? Bon. Voilà ce qu'il veut dire. Même ressembler, ça ne ressemble pas. Ça n'a rien à voir. Voilà ce qu'il veut dire. Est-ce que vous avez entendu le but pour lui ? Effectivement, je vais raconter de nouveau, ça n'a rien à voir. Quand on traduit littéralement une page de la sagesse révélée, mise par écrit, pour des raisons historiques, on l'a mise par écrit, mais elle est restée essentiellement orale. La preuve, c'est que, intentionnellement, la formulation du Talmud est une formulation hermétique, que ne peut comprendre que celui qui a un livre, que ne peut comprendre que celui qui comprend. Et même, il y a des fausses pistes. C'est-à-dire, il y a une superficie de la lecture qui fait croire que j'ai compris à un certain niveau, alors que j'ai rien compris du tout. Mais c'est une fausse piste. Voilà. Et on a commencé à comprendre qu'après des heures où le maître a fait étudier pour établir la lecture directe, et a montré tout de suite qu'on n'a rien compris. Et ce n'est que là qu'on va commencer un peu à comprendre, quand on a vu qu'on n'a d'abord rien compris du tout. Hein? Vous comprenez? Mais ce livre est gigantesque. Il y a d'abord un humour colossal. Hein? Mais si vous entrez dans un Beit HaMidrash traditionnel, ben, vous voyez, ces grands sages étudiant ensemble sur la même page de Talmud, dès qu'ils commencent, ils éclatent de rire ensemble. Et ils éclatent de rire, ben, parce qu'il y a là une sagesse qui se dévoile et qui éclate et qui se formule avec une espèce de coquetterie, d'occultation colossale. Ben. Et tant qu'on n'en est pas arrivé là, on n'a pas encore commencé à goûter de quoi il s'agit. Vous comprenez ? Alors qu'on nous donne de ces espèces de monographies d'un triste et d'un sérieux boursouflé, c'est comme ça qu'on dit, en fait, pédant et ch'touillot. Regardez à quel point nous avons été dénaturés. Hein, alors que comment peut-on lire tristement une page de Talmud ? Un vrai talmudiste éclate de rire dès qu'il commence à comprendre. Je ne sais pas si vous sentez un peu de quoi je veux parler. Un de nos condisciples, Georges Lévite, avait une fois raconté cette histoire talmudique. Un jour, les élèves sont venus voir leur maître pour étudier. Il était devant une page de Gomara. Et puis, il les a fait attendre. Il était dans cette page. Bon. Ils sont venus le lendemain. Ils étaient toujours dans la même page. Ils sont venus le troisième jour, 15 jours, toujours dans la même page. Ils ont commencé à s'inquiéter. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y avait ? Il lève le nez de la page et dit, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis tellement bien là-dedans. Pourquoi vous voulez que j'aille ailleurs ? Il n'avait pas encore fini de lire sa page. Bon, alors, mais je vais quand même vous rappeler cette histoire chassidique que je raconte à chaque séminaire, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit dans nos traditions orales. C'est le juif qui va chez son rabbi pour lui demander d'apprendre la Torah. Et le rabbi lui demande, est-ce que tu connais l'hébreu ? Dit non. Eh bien, tu vas commencer par apprendre l'hébreu. Le premier jour, ils apprennent deux lettres, Aleph et B. Alors le rabbin dit, ça c'est Aleph et ça c'est B. Reviens demain pour la deuxième leçon. Le lendemain matin, il dit ça, qu'on a dit Aleph, ça, il lui dit non, c'est B. Et ça, c'est Aleph. Alors l'élève dit au rabbi, mais non, c'est l'inverse. Ça, c'est Aleph et ça, c'est B. Et le rabbi lui demande d'où tu le sais. Et l'élève qui répond, mais c'est quoi ? Il a dit, il dit, ça c'est la première leçon, c'est moi qui l'ai dit. Parce que sinon, d'où tu sais ? Est-ce que vous comprenez le pose ? Et plus encore, lorsque c'est un texte qui intentionnellement a été mis par écrit sous forme incompréhensible pour que ne comprenne que celui qui peut comprendre, c'est-à-dire celui qui a un maître. Et vous savez, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un maître ? Dans la tradition, ce n'est pas quelqu'un qui transmet des fichiers d'informations. Ça, c'est des bibliothécaires, c'est autre chose. Okay ? C'est quelqu'un dont je reconnais la compréhension comme souveraine sur la mienne. C'est quelqu'un qui tranche parmi mes hypothèses. Si je n'ai pas d'hypothèse, je n'ai pas besoin d'un maître. Mais j'ai des hypothèses, quelqu'un tranche, je me dis, c'est pas là que ça passe. Ça pourrait durer, ça pourrait durer, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Mais voilà, c'est clair. Voilà comment nous avons exploré le chemin. Si. Et là, autrement, il n'y a pas. Qu'est-ce que dit la Mishnah du Kacharot ? Assez les haras. Veistalek miasafek. Notre Mishnah. Assez le chara, veistalek miasafek. C'est ça le rab. C'est celui qui ne sort du doute. J'en ai regardé là, mais la problématique de Descartes qui arrive là. Et c'est pourquoi il faut bien comprendre que le monde de la pensée traditionnelle juive n'est rien moins que non universitaire. Parce que le principe de l'université, c'est de mettre en congé le principe d'autorité, et c'est le principe de la critique autonome. Or, de quoi l'université n'est pas l'université? Je pense que c'est bien clair. Je parlerai, pour en donner une minute, parce que je risque d'oublier, Alors, vous avez là... je voudrais citer un enseignement de notre maître, M. Corbet, qui nous disait que... Safek, le mot de Safek qui signifie le doute, a la même valeur numérique que Amalek. A la même valeur numérique que Amalek. Ça veut dire que Safek, c'est le Amalek intérieur. Et lorsqu'il y a doute en Israël, Amalek surgit à l'extérieur. Hein? Oui, ça va. Hein? Alors, celui qui n'a pas de rat reste dans le Safek. Parce que le propre de la sagesse et de toute sagesse authentique, c'est que nous allons de porte à porte les différentes portes de la connaissance. Dès qu'une porte s'est ouverte, elle nous remet devant une porte fermée qu'il faut de nouveau ouvrir. Et à chaque niveau, il y a des bifurcations. Et les hypothèses sont toutes hypothèses authentiques. Il faut savoir par où passer. Alors cela, le rab trace la route. Hein? Parce qu'on l'a tracé pour lui. Et Ish Mepiish, Av Moshe Rabbeinu, Mivya Gomorra. Un de mes maîtres disait, en Israël, disait ceci. Un maître, c'est pas quelqu'un qui a des élèves. Un maître, c'est quelqu'un qui a eu un maître. Je crois que la formule est très. Sinon, on n'a plus, vous me passerez la blague, que des centimètres. C'est-à-dire des gens qui se sont sentis maîtres. Bon. Et en général, ils se prennent pour des hectomètres. Et voilà, si vous voulez, la citation que je voulais faire de M. Gordain, qui va très très loin. Et la première fois qu'Amalek apparaît dans le texte de la Torah, hein, pour attaquer Israël au moment de la pathologie, c'est quand, à la fin du verset précédent, le doute apparaît en Israël. Lorsque se formule cette interrogation, « Ayesh Hashem bekirbenu imaim » Est-ce que Hachem est en nous ou pas? Et ça veut dire, est-ce que notre Torah est révélée ou pas? Lorsqu'apparaît le doute sur la révélation de la Torah, alors il va y avoir Amalek, c'est la suite. Et M. Gordain nous avait expliqué, il a vécu cette époque en Allemagne même, que Amalek de notre temps a surgi à l'endroit précis dans les écoles juives où on a commencé la critique biblique, en Allemagne. Voilà. C'est-à-dire, l'interrogation à Yesh Hachem Bekirben Uimahim a été formulé en Allemagne d'abord. Et c'est en Allemagne qu'Amalek est venu. Bon, M. Gordain avait le génie de nous court-circuiter des analogies, enfin des relations, en nous mettant deux choses en relation. Et là, apparaît ce thème terrible, n'est-ce pas? C'est que je reviens d'après l'enseignement de la Kabbalah là-dessus, Amalek, c'est la même gamatria que Safek. S'il y a Safek, Amalek vient. Parce que Amalek, c'est le Safek à l'extérieur, et le Safek, c'est Amalek à l'intérieur. Vous comprenez le problème. Or, précisément, la méthode philosophique, je la prends si vous voulez au niveau de Descartes, la méthode philosophique consiste, elle est opposée à la tradition, et par génie propre. La méthode philosophique, c'est la critique autonome, c'est la critique personnelle, c'est le refus du principe d'autorité. Bon, il y a des lois, des règles de déontologie, je crois, qu'on observe, c'est comme ça qu'on dit, qu'on observe aussi. On doit hommage à qui, de qui on a appris quelque chose, mais il est bien évident que la pensée philosophique par vocation est solipsiste. C'est moi qui juge. Hein? Est-ce que c'est clair? Il y a des rapports de politesse avec le professeur qui m'a aidé, mais ce n'est pas des rapports de disciple à maître dans le sens traditionnel. Et moi ça m'a toujours paru indécent, impudique, ces milieux juifs où on étudie de cette manière. Alors on cite, Rabbi Akiva a dit que, Rabbi Ishmael a dit que, Rabbi Tarfon a dit que, moi je vous dis que. Un petit peu de chômage, comment on dit ça de pudeur, n'est-ce pas? Comment tu me cites Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Tarfon, après tu me dis moi, alors ça veut dire qu'ils sont même niveau que toi. Oui, alors s'ils sont 20 minutes au tour, on se voit, on va aller vendre des chaussettes. Vous comprenez ce que je veux dire? En réalité, vous voulez dire que je suis au même niveau que... Ça trompe qui? Voilà, c'est ça la gravité du problème. On s'est imprégné d'une mentalité et d'une attitude de méthode qui est légitime dans la recherche universitaire, mais qui n'a rien à voir avec une tradition pareille. Vous voyez, Ken, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais vous parler peut-être très rapidement d'un petit enseignement avant que je vous dis, mais très important. C'est la méthode de la philosophie, on va la prendre avec Socrate, c'est la maïeutique. La maïeutique, c'est-à-dire le fait de faire accoucher la réponse de l'esprit de l'élève. Il y a toute une stratégie pédagogique de la maïeutique. En général, vous avez étudié un peu les dialogues de Platon, eh bien, l'accoucheur sait très bien où il va faire accoucher l'enfant. Vous comprenez ce que je dis? C'est une stratégie pédagogique. Bon. Mais, c'est ça le principe de la méthode de la critique philosophique, c'est-à-dire que, finalement, l'élève a posé la question et la réponse, c'est lui qui la donne. Vous suivez? Ben, d'où l'atmosphère de doute qui restera dans un tel type de sagesse. Puisque c'est moi qui ai répondu à ma question. Le maître n'était là que comme accoucheur. Alors entendez bien cela, c'est moi qui ai répondu à ma question. Alors ça veut dire que j'aurai jamais de certitude si c'est moi qui réponds à ma question. C'est clair? Et c'est pourquoi d'ailleurs la grandeur et la noblesse de l'esprit philosophique, c'est l'inquiétude. Chaque fois que je rencontre un philosophe bien dans sa peau, je ne sais pas comment on dit ça, un philosophe, pas inquiet, je me demande où il n'est pas philosophe, où c'est un fumiste. Comment peut-on être philosophe et ne pas avoir des cauchemars tous les jours? Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis capable d'interpeller la sagesse, mais c'est moi qui réponds. On ne peut être, dans l'expérience philosophique, on ne peut être que dans une conscience tragique perpétuelle. Un philosophe qui n'est pas de conscience tragique m'a toujours apparu comme suspect. C'est peut-être que d'autre part, il n'est pas philosophe. Donc il est, disons, professeur de philosophie, Zéoulaï Machewaker, de philosophe. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon. Alors que dans la tradition juive, c'est le contraire. C'est pas le maître qui est l'accoucheur de l'élève, c'est l'élève qui est l'accoucheur du maître. L'élève pose la question et le maître répond. Alors là, on est sûr. Aselechara vistalek minata. Et vous prenez le mot Talmid. Talmid, c'est les mêmes lettres que Mialedet. Mialedet, la sage-femme. Ça veut dire que ce n'est pas le maître qui est la sage-femme, c'est l'élève. Est-ce que tu peux? Vous avez entendu? C'est joli en plus. Et c'est joli en plus. Mais c'est d'abord vrai. Voilà, dans la tradition, il est bien évident, et c'est pourquoi, par exemple, Talmud peut dire, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, et encore plus de mes collègues, mais plus encore de mes élèves. Parce que c'est l'élève qui oblige le maître à accoucher de la vérité. Mais quand c'est le maître qui dit la vérité, on est tranquille. Quand c'est l'élève qui répond, c'est le doute. Vous avez compris le problème? Si on est honnête, on reste dans le doute. D'où ce que dit la Mishnah, Aselecha Rav, Veistalek, Mina Safé. Bon, alors je vous donne la parole. Qui avait demandé la parole? C'est vous, monsieur. Je ne sais
pas
si je suis dit, mais je suis dit, אז אחר כך אני אתה גם בסדר.
אבל מי שלומד לצד, האם זה אני שמתייחס לבדיקת התלמוד של
חניות, או בלבד, או... יש כללה בתלמוד למי שלומד בלבד. יש כללה ממש.
כן, אבל אני רוצה, מי שלומד שומד עם רשי ועם תוספות ועם המער ממשגל, האם הוא כבר אפשר לומר על האיש הזה שיש לו רב, יש לו מורה, כלומר המער שער ורשי ותוספות, או האם אתה אומר,
מורה לפריד זה ממש איש, או איך יחד איתו... תשמע, לפי דעתי זה תלוי. זה תלוי אם יש לו אמונת חכמים או לא, אם אין לו אמונת חכמים. אם יש לו מספיק אמונת חכמים, עד כדי כך שאם לא, הוא לא מבין מה שרש"י אומר, הוא מאמין שרש"י אמר אמת. אז הוא יכול להמשיך קצת עד שיגיע לזכות על זה שיהיה לו רב, כן? אז זה תלוי לעניין של אמונת חכמים. כי אתה מבין מה זה צדוקיות. יש הרבה צדוקים בישיבות, לדעבוננו. אתה מבין? צדוקים ממש, כן. אחר כך אני אגיד מה זה, כן. וצדוקים זאת אומרת שהם שוללים לאמיתו של דבר את האמונת חכמים, אומרים בפה שיש להם אמונת פרם, אבל יש להם רק אמונת שכלם. מה שאומר להם שכלם, זה דוקי, כן? אין לו דבר שבעל פה. ואני חושב שעכשיו, גבי רש"י למשל, עכשיו אי אפשר ללמוד רש"י לבד, כן? עכשיו כבר רש"י סתום וחתום, כן? Bien, j'explique. La question qui m'a été posée est la question suivante. Est-ce que quelqu'un qui étudie le Talmud avec tous les kelim, avec tous les commentaires, avec tous les commentaires traditionnels, Rashi, Tosfot, Rishonim, Bacharonim, etc., est-ce qu'il peut étudier seul? Une autre question qui est en son endroit. Et la réponse que j'ai donnée est à deux niveaux, si vous voulez. La première, c'est que ça dépend. Si vraiment c'est quelqu'un qui a ce que nous appelons Emunat Hachamim, c'est-à-dire qui a la foi préalable que même s'il ne comprend pas ce que dit un commentateur, le commentateur a dit la vérité, et que c'est lui qui n'a pas compris. Hein? C'est clair. Bon. Nous disions quand nous étudions ces problèmes, qu'est-ce que c'est Emunat Hachamim? C'est la Emunat, les Hachamim sont vraiment des Hachamim. Hein? C'est la Emunat, les Hachamim sont des Hachamim. Hein? Et je disais, c'est la chose la moins répandue dans le monde canonique aujourd'hui. Hein? En réalité, le plus grand monde étudie avec les commentaires et son intelligence dans l'attitude sadducéenne, hein, et fait comme si on parle par orthologie de parole, qu'il s'agit d'une tradition, mais en réalité, on a un phénomène culturel, des livres, on est intelligent, on aime bien ça, parce qu'on remarque fantastique, hein, et alors on étudie seul et on fait semblant d'étudier avec les maîtres que sont Rachid, Tosfot, etc. Non, on s'en sert comme bibliothèque, pas comme maître. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez à quel point on ne peut pas, en une phrase, dans un dialogue, répondre à quelqu'un sur ce sujet. Il a fallu que je vous fasse une introduction gigantesque pour renforcer une porte ouverte avec un temple. C'est clair? Ok. Oui, on peut
pas en déduire que nos maîtres ne se trouvent jamais.
Je vais essayer de vous répondre. Écoutez, j'entends bien votre question et elle procède exactement de cette mentalité universitaire qui est à sa place à l'université.
Et
de vous
donner.
Attendez. Si vous voulez.
J'ai reproché dernièrement sur un passage de Mikra, de Rashi. Mon Rashi, c'est la première fois qu'il y a un passage. Rashi expliquait que ce qu'il y avait danger pour Sarah à venir en Égypte, c'est que les Égyptiens étaient noirs et laids. Parce qu'il laissait entendre clairement que les Noirs étaient laids, c'était hideux. C'est le commentaire de Rashi.
Alors non, c'est vous qui les dites comme ça.
Oui, c'est sans doute moi, excusez-moi.
Non, je veux dire tout simplement pourquoi, parce qu'en hébreu, nègre, ça veut dire beau. En hébreu, couchis, quand on veut dire d'un gosse, c'est clair. Et vous savez que j'ai une fois eu à faire un exposé à Jérusalem à des religieuses, dont beaucoup venaient des pays d'Afrique noire. Ça m'a donné l'occasion de faire un compliment à une de ces dames en disant qu'il ne faut pas oublier que Moïse, sa femme était noire, qu'elle, qui chakouchit la car. Et alors je l'avais expliqué, parce que dans la tradition hébraïque, le type de la beauté, c'est la beauté des nègres. Bon, alors vous voyez comment on peut se tromper dans ce cas. C'est autre chose. Non, alors ça c'était la deuxième réponse que j'étais en train de faire. Aujourd'hui même Rashi, on ne peut plus lire seul, et il nous faut un maître. Même Rashi est devenu hermétique. Je vais vous raconter une petite histoire du Maharal de Prague, qui a écrit un grand commentaire sur Rashi qui s'appelle le Gourarier. Un jour, le Maharal de Prague faisait passer des examens rabbiniques à un étudiant. Alors, il a dit, pour l'aider, il a dit, qu'est-ce que tu sais vraiment dans le Talmud? Et je t'interrogeais sur ce que tu sais vraiment, dis-moi, qu'est-ce que tu sais? Il dit la moitié, il dit, je ne peux pas t'interroger, parce que chaque fois que tu me diras, c'est dans l'autre moitié. Mais il dit non, dis-moi vraiment qu'est-ce que tu sais. Alors l'étudiant lui a dit, ah, bon, je connais bien Chumash Rashi, le commentaire de Rashi sur le Chumash. Le Gourari lui a dit, si tu connais bien Chumash Rashi, le Maharal lui dit, si tu connais bien Chumash Rashi, tu peux déjà me remplacer, qu'est-ce que tu me demandes pour prendre un examen? Vous comprenez le problème? Et il faut bien savoir cela.
Rashi, avec ses chakamim, c'est obligatoire, Rashi.
Baruch, mais j'essaie de vous expliquer ça. Tout à l'heure, quand j'ai cité « même ressembler, ça ne ressemble pas okay », on peut rester pendant 15 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans avec ces livres et croire qu'on a compris. Un jour, un maître vient et te dit « ça c'est ça et ça c'est ça ». Maintenant, tu comprends, tout a changé. Alors, j'ai dit « mais, les bonhommes, qu'est-ce que j'ai lu jusqu'à présent okay ?»